VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du 8 février 2022. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Une marée humaine se déverse dans Dakar, la capitale du Sénégal, pour accueillir les lions de la Tiranga, héros de la CAN.
Le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, accuse la France d'avoir cherché la partition du Mali.
En Centrafrique, le premier ministre Henri-Marie Dondra, remplacé par le ministre de l'économie, Félix Mouloua.
En Tunisie, la police a fermé hier le siège du Conseil supérieur de la magistrature, une mesure jugée illégale par son président.
Crise ukrainienne. L'Allemagne a toute la confiance des États-Unis, assure le président Joe Biden lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec le chancelier allemand Olaf Scholz.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Une marée humaine s'est répandue hier dans les rues de la capitale sénégalaise Dakar pour fêter les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 dans un exceptionnel moment de jubilation après plus de 50 ans de déconvenue. Jacques Aristide.
Des centaines de milliers de personnes aux abords de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour accueillir les nouveaux champions. La foule également présente près du palais présidentiel où l'équipe devait achever sa parade triomphale. Une allégresse d'une intensité inédite depuis des années dans un pays plus coutumier par culture de la réserve que de l'exubérance. Le public voulait voir Sadio Mané et ses coéquipiers, y compris s'il fallait grimper aux arbres ou aux panneaux publicitaires. Lundi a été décrété jour férié par le président Macky Sall. Le chef de l'État est lui-même allé accueillir l'équipe à sa descente d'avion après avoir annulé une visite officielle aux Comores. Les lions de la Teranga ont mis fin à l'interminable attente d'une nation folle du ballon rond en battant l'Égypte aux tirs au but. Consécration continentale après 55 années de participation à la CAN et deux finales perdues. Les Sénégalais envisagent gonfler à bloc les prochaines échéances sportives. Le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe en Coupe du Monde, disent certains. Il faudra d'abord se qualifier pour le Qatar et cela passera par un barrage fin mars. Devinez contre quel pays ? Eh bien, contre l'Égypte.
Merci Jacques. Mali, dans un contexte de vive tension entre Paris et Bamako, le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, a accusé hier la France d'avoir œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire. Dans une nouvelle charge devant des diplomates en poste à Bamako et réunis à sa demande à la primature, M. Maïga s'en est pris à la France durant plus de 45 minutes, sans aller jusqu'à demander explicitement le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane conduite par Paris.
Après un temps d'allégresse en 2013, quand les soldats français ont libéré le nord du Mali, tombé sous la coupe de groupes djihadistes, l'intervention s'est muée dans un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali qui a consisté dans la sanctuarisation d'une partie de notre territoire où les terroristes ont eu le temps de se réfugier, de se réorganiser pour revenir en force à partir de 2014, a-t-il estimé.
En République centrafricaine, le premier ministre Henri-Marie Dondra a été démis de ses fonctions par le président Faustin Archange Touadéra et remplacé par le ministre de l'économie Félix Mouloua. Le point avec Michel Joseph.
Le premier ministre a été démis, le président a décidé de mettre fin à sa mission avant de signer un second décret nommant Félix Mouloua, a déclaré hier Albert Yaloké Mokpémé, porte-parole de la présidence à Bangui. Félix Moloua, 64 ans, est considéré comme un fidèle du président, mais surtout un bon technocrate. Démographe de formation, il a été pendant 6 ans directeur de cabinet au ministère de l'économie avant d'hériter de ce portefeuille en 2016. Pour sa part, Henri-Marie Dondra a assuré avoir démissionné de son poste de chef du gouvernement. Ancien ministre des Finances, il a été nommé en juin 2021, quelques jours après que la France eût gelé son aide budgétaire à Bangui, que Paris juge complice d'une campagne de désinformation anti-française orchestrée par la Russie. La nomination de M. Dondra, considérée comme plus bienveillante à l'égard de la France que son prédécesseur Firmin Ngrebada, jugé plutôt pro-russe. Le président Touadéra, à la tête du pays depuis 2016, a été réélu le 27 décembre 2020. Un électeur sur 3 n'avait pas pu se rendre aux urnes car les 2/3 du pays étaient sous la coupe de groupes armés.
En Ouganda, c'est le 23 mars que doit s'ouvrir le procès de l'écrivain Kakwenzi Ruki Basanji pour insulte au président Yoweri Museveni et à son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, que beaucoup voient comme le successeur de son père, âgé de 77 ans.
Arrêté le 28 décembre, puis libéré sous caution le 26 janvier, ce jeune écrivain critique du pouvoir avait été inculpé le 11 janvier de communication offensante envers les deux hommes dans une série de publications sur Twitter. Il dit avoir été torturé en prison et le juge lui a désormais interdit de parler à la presse.
La police tunisienne a fermé hier le siège du Conseil supérieur de la magistrature, une mesure dénoncée comme illégale par son président 2 jours après sa dissolution sur une décision du chef de l'État, Kais Saied. Le point avec Rosine Mounezero.
Cette fermeture illégale et sans aucun motif juridique prouve que nous avons atteint une étape dangereuse où le pouvoir exécutif s'empare des institutions de l'État et de la magistrature en utilisant la force, a déploré Youssouf Bouzekha, président de l'organe de supervision judiciaire. Il a mis en garde contre un danger pour la magistrature, les droits et les libertés et a assuré que le CSM va continuer à exercer ses fonctions. Le CSM a rejeté dans un communiqué sa dissolution en l'absence d'un cadre juridique et constitutionnel, jugeant l'acte d'atteinte à la Constitution et aux garanties d'indépendance de la justice. Le président Kais Saied accuse de partialité le Conseil supérieur de la magistrature. L'Union européenne s'est dit préoccupée par la décision du président tunisien de dissoudre le CSM et a insisté sur l'importance de l'indépendance judiciaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ukraine, le président américain Joe Biden a assuré hier que l'Allemagne avait toute la confiance des États-Unis, la qualifiant d'allié fiable lors d'une conférence de presse à l'occasion de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison-Blanche. Certains à Washington considèrent M. Scholz comme trop complaisant face au risque d'une attaque de l'Ukraine par la Russie.
Si la Russie envahit l'Ukraine, cela veut dire des chars et des troupes qui traversent la frontière de l'Ukraine, encore une fois. Alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin, a dit Joe Biden au sujet de ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne, déjà construit, mais qui n'est pas encore entré en fonctionnement.
Pendant ce temps, à Moscou, le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à des compromis et à se pencher sur les propositions de son homologue français Emmanuel Macron pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine, tout en accusant de nouveau les Occidentaux de menacer la Russie. Par ailleurs, M. Macron rencontre aujourd'hui à Kiev le président Volodymyr Zelensky.
La Russie, sous la menace de sanctions américaines et européennes, et la Chine ont critiqué lundi ce qu'elles ont appelé les sanctions unilatérales. C'était lors d'un débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington défend sa décision. Abdurrahman Dia.
Selon l'adjoint de l'ambassadeur russe de l'ONU, Dmitry Polyansky, seules les sanctions du Conseil de sécurité sont légales. La Russie a initié ce débat aux Nations Unies pour attirer l'attention sur les conséquences humanitaires et involontaires de ces sanctions. Sans évoquer l'Ukraine, il a dénoncé les mesures unilatérales qui entravent le maintien de la paix et sont des ingérences dans la souveraineté des États, selon lui. Le bâton est utilisé en Syrie, au Bélarus, à Cuba, au Venezuela, Venezuela, en Iran, en Afghanistan, en Birmanie et au Mali, a-t-il égrené. Sur la même ligne, l'ambassadeur chinois à l'ONU, Zhang Zhong, a déclaré que les sanctions unilatérales coercitives étaient une source de préoccupation majeure, car selon lui, elles ne font qu'exacerber les rapports de force. Mais l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a rétorqué que la situation humanitaire désastreuse en Corée du Nord était la faute de ce pays. La diplomate a aussi réfuté l'argument de sanctions unilatérales illégales. Les États-Unis rejettent catégoriquement cette position, a-t-elle déclaré.
Débordés par des centaines de camions qui font le siège de la capitale canadienne, le maire d'Ottawa a appelé hier les autorités fédérales à l'aide pour mettre un terme à la démonstration de force des routiers contre les mesures sanitaires qui durent depuis plus de 10 jours. À noter par ailleurs qu'un blocus similaire a eu lieu hier dans les rues situées autour du Parlement néo-zélandais à Wellington pour protester contre les mesures sanitaires et la vaccination.
La Minute Éco, Rosine Mounezero.
Malgré les efforts du gouvernement nigérian pour restructurer le secteur pétrolier, les résultats tardent à se faire observer. L'agence de notation financière Fitch Solutions indique que les faibles performances de production pétrolière enregistrées au cours des derniers mois pourraient affecter la croissance économique au cours des années à venir. L'agence indique toutefois que le Nigeria devrait enregistrer une croissance légèrement en hausse en 2022 à 3,5%, la meilleure performance du pays depuis 2014. Le cyclone tropical Batsiré a balayé Madagascar, laissant dans son sillage 20 morts et ravagé le grenier à riz dans le centre, faisant redouter à l'ONU une aggravation de la crise humanitaire. L'impact du cyclone ne se termine pas aujourd'hui. Il va durer plusieurs mois sur l'impact agricole, a mis en garde Jean-Benoît Mann, représentant adjoint de l'UNICEF dans le pays. Après plus de 2 mois de fermeture, le Maroc rouvre lundi son espace aérien pour tenter de sauver la saison touristique, un secteur vital pour son économie mais dévasté par la crise sanitaire. Cette réouverture s'accompagne de mesures restrictives pour entrer sur le territoire marocain. Tout voyageur doit être vacciné selon un communiqué du gouvernement. Les passagers testés positifs devront s'isoler dans leur lieu de résidence.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Une marée humaine s'est répandue hier dans les rues de Dakar pour fêter les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce fut un exceptionnel moment de jubilation après plus de 50 ans de déconvenues. Des centaines de milliers de personnes se sont pressées aux abords de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où les nouveaux champions ont été accueillis par le président Macky Sall, puis un flot danse a accompagné à travers la capitale sénégalaise le quart des champions d'Afrique, fendant la foule sous la protection d'officiers à cheval, entraîneurs et joueurs assis sur le toit sans garde-corps, mais trophée à la main, ces fans des Lions disent être fiers de leur équipe nationale.
On est là pour soutenir nos Lions et nous ont rendu tellement fiers. On attendait cette victoire depuis longtemps. Maintenant, on l'a eu. On est fiers des Lions, fiers du Sénégal. C'est notre Sénégal, ouais!
Nous, on est là pour célébrer notre coupe. Parce que nous sommes fiers de nos joueurs et nous avons confiance en eux. Parce qu'on est content. Ça fait 57 ans depuis notre première participation. On vient de prendre une Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Bonjour, bonjour. Yeah.
Oui, je suis là pour montrer ma joie, ma satisfaction à nos chers Lions, à nos vaillants Lions. Tout le monde, tout le Sénégal attendait ce moment-là. Maintenant, c'est arrivé. Il faut qu'on exulte. Il faut que tout le Sénégal sorte pour qu'on magnifie cette joie. Tout le monde est joyeux. On est content. On est content de Sénégal. On est fiers des Sénégalais. Fiers de cette République. Sénégal, Tikaou, Tikanam. On va gagner encore des coupes, Inch'Allah.
Les champions d'Afrique seront reçus ce mardi au palais présidentiel où ils vont être décorés par le président Macky Sall. Dans le reste de l'actualité sportive, la Fédération nigériane de football a annoncé que l'entraîneur par intérim Augustine Iguavone va toujours être en charge des Super Eagles pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 contre le Ghana le mois prochain. Elle a ajouté que l'ancien entraîneur des moins de 20 ans, Emmanuel Amunike, a été recruté comme assistant d'Iguavone. L'ancien international et ailier barcelonais Amunike a mené la Tanzanie à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Cette annonce met fin au plan d'embauche de l'entraîneur portugais José Pissarro pour diriger l'équipe du Nigeria après la CAN 2021 pendant laquelle le Nigeria a été éliminé en huitième de finale par l'Égypte.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pour revenir encore sur les lions de la Teranga, au Sénégal, accueil populaire inédit pour l'équipe nationale de football qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Une foule immense, comme vous l'avez déjà entendu, a accompagné les lions de la Teranga jusqu'aux portes du Palais de la République, de l'atterrissage à la présidence en passant par les quartiers populaires de Dakar. Les Sénégalais ont témoigné leur fierté et leur reconnaissance à leur héros du ballon rond, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
C'est l'hymne national du Sénégal qui a accueilli les lions à leur descente de l'avion en provenance du Cameroun où ils ont été sacrés champions d'Afrique de football pour la première fois de leur histoire. Lors d'une brève cérémonie protocolaire qui s'est déroulée à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, l'équipe nationale de football a reçu les félicitations du président Macky Sall.
Chers lions, aujourd'hui je peux vous appeler les lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Vous avez constaté, depuis la demi-finale déjà, la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais, uni dans sa diversité autour de nos lions et de notre équipe nationale de football. Je voudrais vous féliciter et demain, j'aurai l'occasion en vous recevant. Je sais que les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Et tout le chemin qui vous mènera au palais, vous pourrez constater la pulsion du peuple.
Prenant la parole, le capitaine Kalidou Koulibaly a exprimé toute sa fierté au peuple sénégalais.
De remporter cette CAN, c'était un rêve pour nous tous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a effectué. Merci à vous tous d'être restés derrière nous. C'était ça la chose la plus importante, c'était que tout le peuple soit là. Aujourd'hui, vous l'avez été, on vous remercie de ça. Et grâce à vous, on a ramené ce magnifique trophée. Et il est pour vous, et surtout pour notre président, son excellence Macky Sall. Alors là, je pense qu'avec certains joueurs, on va faire un geste qui va être un peu fort et qui va représenter ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire remettre cette coupe au président comme on l'avait promis avant de partir. Et voilà, notre mission a été accomplie.
Après cette brève cérémonie protocolaire, les Lions ont communié avec les centaines de milliers de supporters qui les attendaient aux portes de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor et tout au long de leur parade dans les rues de Dakar. Le tout dans une ambiance indescriptible.
Et le mérite revient au président Macky Sall, vraiment. On remercie beaucoup aussi le président et on le félicite aussi. C'est ça. On aurait vraiment aimé que monsieur le président décrète demain aussi férié pour pouvoir le fermer avec le travail. On pourra pas. En plus, il était très heureux de voir Sadio Mané. Sadio Mané, t'as une grande famille. Je t'aime vraiment.
terre bi dundé nañ ko ak ciono ak mbété quoi. Bon, lén rek la bëgg ñëk suñu moy
l'accueil n'a pas été facile, ça a été un peu difficile parce qu'il était difficile pour nous de voir les jours. À part ça, je pense que la cérémonie est exceptionnelle, nous sommes fatigués mais quand même accueillir l'équipe nationale en valait la peine.
Après l'accueil triomphal qu'ils ont reçu ce lundi, les champions d'Afrique sénégalais seront ce mardi au palais présidentiel pour recevoir les honneurs de la République. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Merci Seydina. Oui, la capitale sénégalaise a assurément vécu lundi une journée de liesse populaire après une nuit de folie, pour citer notre correspondant à Dakar, Benoît Almeras.
Les Dakarois ne sont pas redescendus de leurs petits nuages. Une foule de supporters aux couleurs vert, jaune, rouge du drapeau national a de nouveau déferlé dans les rues. Objectif, saluer les champions d'Afrique à leur manière. Parade de centaines de mototaxis. Concert de klaxons. Chants de supporters. Ou plus simplement, cris de joie. Certains ont attendu très tôt le matin le retour des joueurs, mais les Lions de la Teranga ne sont arrivés qu'en fin d'après-midi sur le tarmac de l'aéroport militaire de Dakar.
Champion d'Afrique 2021.
À leur descente d'avion, les joueurs ont remis le trophée de la CAN au président Macky Sall avant le discours du chef d'État.
Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil d'être des lions féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent le grand peuple.
Avant la foule massée contre les grilles de l'aéroport, les VIP ont été les premiers à savourer l'événement, à l'image du chanteur Youssou N'Dour au micro de la télé sénégalaise.
J'ai vu tous les Sénégalais étaient beaux, magnifiques, des visages extraordinaires. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Je pense que ces garçons-là symbolisent le Sénégal dans sa grandeur, sa force et sa soif de gagner.
Puis le bus des joueurs a tenté de se frayer un passage vers le palais présidentiel à travers la marée humaine, mais la communion avec les supporters a duré presque toute la nuit. Benoît Almeras, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Mali, le gouvernement, réuni en conseil des ministres extraordinaire vendredi dernier sous la présidence du colonel Assimi Goïta, a adopté un projet de loi portant révision de la charte de la transition du 12 septembre 2020. Qu'est-ce qui pourrait changer dans la charte de la transition au moment où des partis politiques exigent le respect du délai des 18 mois? Au micro de Modibo Dambélé, l'analyste politique malien basé au Texas, Aristide Sidibé.
Au-delà des points inscrits par le Conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu le vendredi 4 février, c'est plutôt l'esprit parce que quand on lit un peu, on peut en déduire que les autorités de la transition se proposent d'élargir la base politique de la transition et je pense qu'ils vont certainement faire l'ouverture du gouvernement, élargir les postes ministériels pour faire venir des gens qui ne souscrivent pas à l'orientation des autorités de la transition, mais aussi le CNT. Et finalement, je pense que les conclusions des assises quant à la durée de la transition vont être la base consensuelle qui peut être aussi faite quand ces deux autres conditions dont j'ai énuméré ci-dessus.
Comment expliquez-vous la réticence des partis politiques lorsqu'on sait que le délai initial pour la transition était de 18 mois?
La réticence est due au fait que le Mali-Croix prôné par ceux qui sont aux affaires aujourd'hui est quelque sorte
incompatible avec l'avenir politique de certains. Autrement dit, ce que je veux dire par là, si ceux qui ont géré ce pays ces 20 dernières années sont appelés à répondre de leur gestion, et ce serait difficile d'avoir un terrain d'entente avec eux. Je pense que c'est la plus grande réticence. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ne sont pas dans les affaires, ça peut expliquer ça, ça peut être une explication secondaire, mais moi je pense que l'explication principale, c'est par rapport au fait que si leur gestion antérieure est sujet à être problématique pour eux au niveau de toute poursuite judiciaire, je pense que c'est ça les réticences.
Vu l'évolution de la situation, le Mali est victime de sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement avec les partis politiques pourront trouver un terrain d'entente?
Bon, tout va dépendre de la proposition qui est sur la table, c'est-à-dire l'amendement de la charte et le nombre de postes ministériels et l'augmentation des membres du CNT. Je pense que si on les fait appel, je pense que le Mali va parler d'une voix unique. C'est pas parce qu'il parle pas, le Mali ne parle pas d'une voix unique, mais ce sera très difficile pour ceux qui sont en train de sanctionner le Mali de dire que il y a une opposition qui n'est pas d'accord avec. Je pense que c'est peut-être ça ce qu'on peut dire par rapport à cette question.
Aristide Sidibé, analyste politique malien basé au Texas, ici aux États-Unis.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, une année de défis pour l'Union africaine. Alors que le Congolais Félix Tshisekedi a passé le témoin au Sénégalais Macky Sall ce week-end, l'organisation continentale souhaite consolider l'intégration économique, la démocratie et mettre un terme au coup d'État. Quatre pays, le Soudan, le Mali, la Guinée et le Burkina, sont suspendus de l'Union africaine après des putschs. Quelle réponse de l'UA pour faire face à ces multiples défis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la 8e édition du festival Amani s'est tenue à Goma, au Nord Kivu, après une année d'absence due au Covid-19. Ce festival a duré 3 jours et a rassemblé plus de 30 000 festivaliers venus de plusieurs pays de la région pour prêcher le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les peuples. Des échos du festival avec Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Durant 3 jours, l'enthousiasme était au rendez-vous sur les sites où s'est tenue la 8e édition du festival Amani, qui signifie « Paix en Swahili ». Chants et danses présentés par des artistes venus de plusieurs horizons ont marqué l'événement. Tous, ils prenaient dans leurs prestations les vivre ensemble et la paix. Le public a réagi positivement.
Nous avons besoin des cadres où nous allons avoir d'autres citoyens pour s'exprimer. Il y a un moment où on ne devrait pas avoir des cadres comme ça, où chacun devrait s'exprimer, où chacun devrait passer un message dans la non-violence. Et donc s'il y a des cadres comme ça, je pense qu'on doit toujours les encourager et on doit toujours encourager à d'autres citoyens de les créer pour qu'ensemble nous puissions construire la paix.
La région des Grands Lacs connaît des conflits souvent créés par des accusations mutuelles des pays voisins, des violations des frontières et des soutiens aux groupes rebelles. Cette festivalière pense qu'Amani jouera un rôle de réconciliation entre le peuple à travers l'art.
C'est un moment de réconciliation, de paix. Ils réunissent en fait leurs forces, leurs cultures ensemble pour se créer un climat favorable. C'est en fait les gens qui se réunissent autour de l'art, autour de la musique. C'est un moyen pour eux d'oublier les situations, les mauvaises situations dans lesquelles toutes ces régions sont face.
Au-delà de prêcher la paix, ce festival a joué un rôle de vitrine par excellence pour les petits commerçants qui ont profité de la présence des visiteurs pour écouler leurs produits. C'est le cas de Gédéon, cuisinier des rues, qui lors du festival a montré sa dextérité dans la préparation du maïs grillé, une activité qui a boosté son business. Le festival Amani s'est clôturé le dimanche 6 février. Les jeunes de la région des Grands Lacs qui y ont pris part ont souhaité voir cet événement culturel s'étendre à d'autres villes, non seulement de la RDC, mais aussi des autres pays de la région. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma.
Le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les peuples, je me souviens de l'ancien président Senghor qui parlait d'un commun vouloir d'une vie commune. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Nanik Talani. À la mise en ordre, Georges Léonard Sagno et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.